Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous. Julian Alaphilippe, héros du jour. Julian Alaphilippe remporte la deuxième étape du Tour de France. Il est maillot jaune. Magnifique victoire au sprint, Fanny Lechevestrier.
Et quelle victoire au panache, hein, le doigt levé vers le ciel en hommage à son papa décédé. Et au bout encore le maillot jaune, lui qui l'avait porté 14 jours l'an dernier.
Fanny Lechevestrier, on vous retrouve dans la page sport de cette session d'information jusqu'à 19h30. Un officier de l'armée française écroué et mis en examen pour espionnage au profit d'une puissance étrangère. Le militaire français était en poste en Italie auprès de l'OTAN. Un Grenelle pour les professeurs. Jean-Michel Blanquer, à la veille de la rentrée, veut augmenter le salaire des profs et améliorer le bien-être au travail. Dans ce journal également, 100 000 manifestants dans les rues de Minsk en Biélorussie et l'Allemagne traumatisée par la radicalisation du mouvement anti-masque à Berlin. L'actualité sportive est riche ce soir. Le Tour de France, bien sûr, le foot et la voile et le grand format sport de cette édition consacré aux championnes de l'Olympique Lyonnais qui disputent ce soir la finale de la Ligue des Champions féminines. À 19h30, les petits bateaux de Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir par où mangent les méduses. Merci, au revoir.
Elliot, par où mangent les méduses? Je suis sûr que vos parents vous laisseront veiller un peu, au moins jusqu'à 20h, pour avoir la réponse de Noël Bréham et de ses invités, les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
Un officier de l'armée française a donc été écroué pour espionnage. La ministre des Armées, Florence Parly, a confirmé ce matin que l'officier français avait été mis en examen pour trahison et atteinte à la sécurité. Le militaire français en poste en Italie auprès de l'OTAN aurait espionné pour les services secrets russes. Stéphane Peyre.
Le 22 juillet dernier, Florence Parly saisit le procureur de la République de Paris de cette affaire très embarrassante pour la France. La direction du renseignement militaire a la conviction qu'un haut gradé français serait une taupe de la Russie. L'homme aurait transmis des copies de documents depuis le centre militaire de l'OTAN, à Naples, en Italie, où il officiait pour le compte de la France. L'affaire est particulièrement sensible car le centre où travaille cet officier est stratégique. Créé fin 2017 par l'Alliance Atlantique, il a pour mission de quadriller la zone Méditerranée, le Moyen-Orient, le Sahara, la Libye principalement. Une centaine de personnes, dont une majorité de militaires des pays alliés, y échangent en permanence des renseignements et des informations opérationnelles. La justice confie l'affaire à la DGSI et à son service de contre-espionnage. Courant août, alors qu'il prend des vacances en France et qu'il s'apprête à revenir en Italie, l'officier est interpellé par la DGSI et mis en examen pour trahison. Désormais détenu à la prison de la Santé à Paris, il attend d'être à nouveau entendu par les enquêteurs et la justice.
La rentrée des classes, J-2, 12 300 000 élèves retournent à l'école après demain mardi, après une longue période de 6 mois pour certains. Le ministre de l'Éducation nationale annonce une rentrée et une année scolaire aussi normale que possible. Jean-Michel Blanquer annonce aussi un Grenelle des professeurs dès la rentrée avec des groupes de travail pour notamment augmenter les salaires et améliorer le bien-être au travail. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Une annonce faite ce matin.
Oui, et pourtant ce soir, parmi les syndicats enseignants, on ne saute pas vraiment de joie, même si on se réjouit que les négociations ouvrent enfin sur cette hausse des rémunérations tant promise. On se dit aussi échaudé. Jean-Michel Blanquer promet 400 millions d'euros d'augmentation. Et au téléphone de France Info, Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, le principal syndicat du secondaire, se dit sceptique.
On a eu beaucoup de groupes l'année dernière prévoyant cette revalorisation. Pour l'instant, nous n'avons rien vu venir. On avait parlé de 500 millions et ensuite les 500 millions sont devenus 400. On va vraiment attendre de voir ce qu'annonce le ministre. Enfin, quand même le sentiment que c'est toujours demain on rase gratis.
Pour Sud Éducation, même sentiment, le compte n'y est pas, dénonce Jules Siran, co-secrétaire du syndicat.
Les 400 millions d'euros qui sont sur la table, c'est extrêmement peu. Rapporté au personnel, ça ferait une augmentation de 37 euros brut en moyenne mensuelle par enseignante et enseignant. Même si on sait que ça sera regroupé sur les échelons les plus bas de la grille indiciaire a priori, ça donne une idée de ce que ça peut représenter en réalité pour les personnels.
Et ce qu'il craint surtout, c'est que le ministre demande des contreparties à cette augmentation.
Il s'est déjà attaqué au temps de travail des enseignants en imposant des journées de formation sur les vacances. Là, on voit bien que les congés sont aussi dans le viseur plus largement avec la multiplication des dispositifs comme les écoles ouvertes, les vacances apprenantes, etc. On s'attend effectivement à un certain nombre de coups de bambou au cours des prochains mois.
Et pour le syndicat, l'urgence est aussi sanitaire. Sud Éducation demande toujours des recrutements pour diminuer les effectifs d'élèves dans chaque classe.
Merci Rémi Brancato. Les profs profs rentrent donc demain avec la promesse d'un Grenelle. Les élèves, eux, retournent dans leur établissement mardi. Dans les familles, c'est déjà le branle-bas de combat pour se préparer à envoyer les enfants à l'école. En plus des fournitures et des livres scolaires, il faudra cette année aussi penser aux règles sanitaires. Reportage à Nancy pour une rentrée, là aussi, très particulière, Flore Catala.
Livres, cahiers, stylos et agenda, Anaïs a déjà tout ce qu'il lui faut pour sa rentrée en troisième. Mais pourtant, dans sa tête, elle n'est pas encore tout à fait prête.
Pas prête du tout parce que depuis mars, je suis en vacances et je suis pas prête du tout à retourner à l'école.
Et dans le sac, entre la trousse et le classeur, cette année, il faudra penser au gel et au masque. Alors dans les foyers, on fait des stocks, comme chez Amélie, qui rentre en terminale.
Ouais, on a un sac devant l'entrée, à côté des chaussures. On a un sac avec les masques. Il va falloir qu'on porte le masque tout le temps. Donc ça change un peu, mais on va s'habituer. Hein.
Les parents de leur côté se posent aussi beaucoup de questions face au Covid, comme Nelly. Elle prépare la rentrée de sa fille au collège et pour elle, tout est encore très flou.
On se demande comment ça va se passer pour les classes, les emplois du temps et les activités scolaires, extrascolaires. On ne sait pas trop où on va, un peu on est dans le flou.
La rentrée, ce sera aussi de nouveaux réflexes à adopter, des réflexes qu'Abdelmajid apprend à ses enfants avant de les envoyer à l'école.
On donne plus de conseils à nos enfants par rapport en fait, à la distance pour éviter de rattraper le virus. Et surtout, on rassure nos enfants puisque normalement, ils partent avec l'incertitude. Est-ce qu'il y aurait ou pas de nouveau le confinement ou pas? Et voilà, on essaie de rassurer.
Mais malgré le stress, les inquiétudes, l'organisation chamboulée, tout le monde au fond est content de rentrer pour retrouver après de longs mois de séparation la classe et les copains.
La courbe du chômage, notamment chez les jeunes, surveillée de près par le gouvernement pour accompagner les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et faire face à l'augmentation du nombre de chômeurs en raison de la crise sociale et sanitaire. Pôle emploi recrute 2800 collaborateurs. Ils accompagneront les jeunes et les chômeurs. Pôle emploi renforce ses effectifs dès le mois de septembre. Delphine Simon.
Il y a 6 mois, le chômage était sous la barre des 8%. Tous les voyants étaient ouverts. Aujourd'hui, c'est rouge écarlate. À Pôle emploi, tout le monde est en ordre de bataille pour gérer au mieux la grosse vague qui s'annonce pour la rentrée. Il y aura donc des effectifs supplémentaires. 2800 emplois vont être créés, dont 1300 spécifiquement pour accompagner les jeunes. C'est une priorité du gouvernement en cette rentrée, car 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, explique la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
On a prévu 1300 emplois supplémentaires, recrutements supplémentaires à Pôle emploi pour accompagner les jeunes, 650 dès le mois de septembre, et puis les jeunes, on veut absolument qu'ils arrivent dans l'emploi, 1500 emplois dès le mois de septembre également, pour faire face à l'augmentation du nombre des demandeurs d'emploi. Personne n'a envie que le chômage reste au niveau où il est, et donc on espère que c'est temporaire, avec un objectif qui est qu'on puisse continuer à avoir un accompagnement de qualité. Et donc que chaque conseiller de Pôle emploi ait un nombre de chômeurs accompagnés qui reste d'une taille raisonnable.
Si la situation se dégrade, ces chiffres pourraient être revus à la hausse. Quant au recrutement, ils se feront en CDI ou en CDD. Ce sera au dialogue social d'en décider.
Delphine Simon, des sous-préfets à la relance nommés partout en France dès le début 2021. La ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, annonce que ces sous-préfets auront pour mission de faire remonter tous les blocages administratifs qui pourraient intervenir. On va avoir l'impression depuis Paris, explique la ministre, d'avoir mis 100 milliards sur la table et certains nous diront « l'argent n'arrive pas chez moi ». Les sous-préfets devront s'assurer que tout fonctionne. Le plan de relance du gouvernement sera présenté jeudi. En Biélorussie, pour le troisième dimanche consécutif, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Minsk. Les protestations sont quotidiennes dans la capitale biélorusse, mais chaque dimanche, depuis 3 semaines, au moins 100 000 personnes dénoncent et contestent la réélection du président Alexandre Loukachenko le 9 août dernier. La présence massive des forces anti-émeutes n'a pas empêché l'immense cortège de rejoindre le centre-ville, avec toujours le même slogan « Loukachenko ». Selon les journalistes sur place, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés par la police. Moscou, de son côté, suit bien attentivement la contestation en Biélorussie. Jean-Didier Revoin nous appelle de Moscou.
s'est barricadé dans son palais sous la protection de véhicules blindés et d'un important dispositif d'hommes armés qu'Alexandre Loukachenko a fêté son 66e anniversaire. Des dizaines de milliers d'habitants s'étaient rassemblés à proximité pour le troisième dimanche consécutif afin de lui souhaiter, comme ils disent, un dernier joyeux anniversaire en tant que président. Si la mobilisation des Biélorusses ne faiblit pas et semble même prendre de l'ampleur, les forces de l'ordre ont-elles fait preuve d'une fermeté nouvelle? Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées alors qu'elles manifestaient dans une atmosphère plutôt bon enfant. Les manifestants réclament toujours le départ de l'homme qui préside aux destinées du pays depuis 26 ans, la libération des prisonniers politiques et de nouvelles élections. Des revendications auxquelles Alexandre Loukachenko reste hermétique. Comme la semaine dernière, il est sorti de son palais Kalachnikov à la main, signe qui laisse difficilement espérer la possibilité d'un dialogue entre le pouvoir et les opposants, d'autant plus que pour la première fois, des chars ont été filmés dans les rues de Minsk. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Et le Kremlin annonce que le président russe Vladimir Poutine recevra dans quelques semaines le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. La manifestation anti-coronavirus hier à Berlin provoque un tollé en Allemagne face à la radicalisation du mouvement anti-masque. Plusieurs dirigeants allemands ont dénoncé une atteinte à la démocratie. Les images hier soir ont choqué le pays. Plusieurs centaines de protestataires forcent un barrage de police pour tenter de prendre d'assaut le Parlement. Cette image insupportable de néo-nazis devant le Reichstag ne peut pas se répéter, selon la ministre allemande de la Justice à Berlin, David Philippot.
Consternation, colère, honte, la classe politique allemande condamne dans son ensemble la symbolique catastrophique de ces images, le coup de force de cette troupe, le drapeau noir, blanc, rouge du Reich en étendard. Parmi eux sont identifiés des identitaires, des révisionnistes, des néo-nazis et même une figure connue de l'Alternative pour l'Allemagne, un parti représenté au Parlement qui siège dans ce bâtiment incendié par les nazis en 1933. Le président du Parlement allemand, Wolfgang Schäuble, a déploré les limites franchies du droit de manifester et pour un des candidats à la succession d'Angela Merkel, c'est une rechute dans les heures les plus sombres de l'histoire du pays. Des condamnations en nombre qui n'ont pas découragé les manifestants de vouloir recommencer à la mi-journée. Plusieurs centaines ont à nouveau marché sur le Reichstag. La police les a à nouveau bloqués. Certains manifestants se sont alors retrouvés porte de Brandebourg pour une espèce de rituel sectaire. Accroupis, des centaines de personnes se lèvent les bras vers le ciel au cri de « Allemagne, soulève-toi ! » Une Allemagne victime de son succès dans cette crise sanitaire, avec moins de victimes en comparaison. Le dénominateur commun de cette foule hétéroclite, c'est de douter de l'existence même du virus. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Situation intenable à Lampedusa, la petite île italienne au large de la Tunisie, a été submergée durant le week-end par l'arrivée de migrants. Le principal centre d'accueil est saturé et des centaines de migrants continuent d'arriver sur l'île. Face à cette situation sans précédent, le maire de Lampedusa, Toto Martello, appelle à une grève générale pour faire réagir le gouvernement italien. Rome, Antonino Gallofaro.
Quelques 450 personnes débarquaient cette nuit à Lampedusa après avoir été sauvées par les gardes-côtes italiens. Il faut aussi ajouter 500 autres personnes arrivées sur une trentaine d'embarcations ces 24 dernières heures, selon des comptes du quotidien La Repubblica, sans compter encore les centaines de personnes sauvées par le Louise Michel. Le navire humanitaire de l'artiste de rue Banksy est transféré sur le Sea-Watch 4 hier soir. Le compte est vite fait, la petite île est saturée. Selon son maire, il y aurait donc désormais plus de 1500 personnes dans le centre d'accueil de Lampedusa, un centre qui a en réalité une capacité un peu moins de 200 places. Pour Salvatore Martello, sa localité est à genoux. Il a donc menacé la grève générale de toute l'île si des décisions immédiates n'étaient pas prises. Le président de la Sicile est déjà en conflit ouvert avec Rome. En début de semaine, il avait signé un décret pour évacuer tous les migrants de l'île, menaçant l'air, l'immigration étant une compétence exclusive de l'État. Mais depuis, toujours pas de réponse du Premier ministre. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
La page sport de cette session d'information jusqu'à 19h30 avant les petits bateaux. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Frédéric.
Alors au programme du football, de la voile et le Tour de France bien sûr, deuxième étape et les premiers cols et la victoire d'Alaphilippe.
Oui, le Français qui a gagné aujourd'hui la deuxième étape qui arrivait à Nice en battant au sprint d'un souffle le Suisse Marc Hirschi. Et le fait coup double Julien Alaphilippe. Il endosse le maillot jaune de leader qu'il avait, on le rappelle, réussi à garder 14 jours l'an dernier. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Cédric.
Vous êtes en direct de Nice. Il était attendu, Julien Alaphilippe, sur cette première étape de montagne. Et le puncheur français n'a pas déçu en remportant aujourd'hui, Fanny, sa cinquième victoire d'étape sur le Tour.
Oui, c'est cela qui est fou hein, et qui rend Julien Alaphilippe alias Loulou pour tous les fans français de cyclisme si attachant. Il y a deux jours, effectivement, au départ, il l'avait dit, il voulait absolument cette étape et le maillot jaune avec lui qui n'avait encore pas gagné la moindre victoire cette saison, qui laissait place au doute parmi même ses plus ardents défenseurs. Et puis, il l'a fait au panache, en s'arrachant littéralement dans les 300 derniers mètres face au vent pour s'imposer devant le Suisse Marc Kirchi, effectivement, et le Britannique Adam Yates, tous trois sortis du groupe des favoris dans la dernière difficulté du jour, la côte des quatre chemins. C'est déjà la cinquième victoire d'étape, oui, à 28 ans sur un Tour de France pour Alaphilippe, et certainement la plus émouvante, le doigt levé vers le ciel et les yeux rougis au moment de la commenter.
Julien Alaphilippe. Toujours une émotion spéciale de gagner sur le Tour, mais voilà, c'est une année particulière. J'ai pas gagné une course depuis le début de saison. Et j'ai toujours continué de travailler dur. Je suis resté sérieux malgré les moments un peu plus durs. Et voilà, je voulais juste dédier cette victoire à mon papa. Ça me tenait à cœur et je suis vraiment content d'y être arrivé.
L'émotion de Julien Alaphilippe qui fait coup double, hein, qui s'empare du maillot jaune, lui qui l'avait porté 14 jours déjà l'an passé. Un succès qui donnait le sourire vraiment à tout le monde sur la ligne d'arrivée, même à ses adversaires. Tout simplement la victoire du meilleur pour le grimpeur Pierre Roland. Écoutez.
Quand il attaque, c'est le meilleur puncher du monde. Il y avait le vent de face qui aurait pu faire que son entreprise n'aille pas au bout, mais voilà, il est de nouveau en jaune et félicitations à lui pour sa victoire et son maillot jaune.
Et beaucoup hein, le voit conserver ce fameux maillot jaune encore de longues journées, Cédric.
Alors Julien Alaphilippe en jaune, on le disait Fanny, derrière les favoris du Tour de France se sont plutôt neutralisés, pas d'attaque notable, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot, l'autre chouchou du public français qui avait chuté hier. Il a fait plutôt l'escargot aujourd'hui en restant bien protégé dans le peloton par ses coéquipiers.
Je ne sais pas s'il a fait l'escargot parce que je peux vous dire qu'on les a vus passer la ligne d'arrivée, tous ces coureurs très fatigués, mais effectivement rien à signaler de son côté. Il a fini l'étape à la 29e place et c'est finalement une très bonne nouvelle pour lui. Alors que ce matin on l'avait vu, il était inquiet, il a pris un coup dans le dos hier lors de sa chute et il ne savait pas trop comment il allait réagir. Finalement il a réussi à franchir bien aujourd'hui les deux grosses premières difficultés de ce tour, l'école de la Colmiane et de Turini, avec les autres favoris du Tour de France. Il faudra faire le point également avec ses coéquipiers. On a vu le jeune David Godu, dont il aura tant besoin dans la suite du Tour de France, lâché dès les premiers hectomètres. Et lui aussi, au courage, il a réussi à finir cette étape. On va voir maintenant, il faut que tout le monde se rétablisse et reparte de l'avant parce qu'il y a un autre grand rendez-vous dans deux jours. Hein. Ça sera Orcières-Merlette mardi prochain.
Et demain, ce sera la troisième étape. Merci Fanny. De Nice assisteront sur 198 km avec donc Julien Alaphilippe, maillot jaune.
Oui, Fanny, le Chevestrier sur la route du Tour de France et en voile. C'est parti pour la 51e édition de la solitaire du Figaro.
Oui, la 51e édition dont le départ a été donné à 13h au large de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor. 35 skippers au départ, partis pour 3 semaines de course en 4 étapes. Joanne Moison a suivi le départ.
Sous un ciel gris et sur une mer agitée. On aperçoit Yann Eliès, triple vainqueur de l'épreuve, qui a appris à naviguer ici, dans la baie de Saint-Brieuc. Armel Lecléache, le dernier vainqueur du Vendée Globe, est là également. C'est l'un des favoris. Il s'attend à un début de course difficile.
Là, on part sur une nuit un peu compliquée. Donc, c'est pas forcément évident pour attaquer une première étape, mais ce sera pour tout le monde pareil. Donc, il faudra être opportuniste, concentré.
Des spectateurs masqués suivent le départ depuis des vedettes passagers. D'autres, comme Christiane, ont préféré rester sur la terre ferme.
Vous connaissez un peu le monde de la voile ?
Pas trop, mais je m'intéresse beaucoup aux deux filles. C'est courageux. La jeune là, qui a 19 ans, elle a un beau palmarès derrière elle déjà.
Deux femmes seulement au départ, dont effectivement Violette d'Orange, Benjamine de l'épreuve, première navigatrice à avoir traversé la Manche en optimiste, petit voilier de 2,30 m. Elle n'avait que 15 ans. Elle aborde sa première solitaire sans pression.
Je pense qu'il faut que je prenne vraiment du plaisir, que j'arrive à me reposer sur la course. Et je vais faire ce que je sais faire et on verra bien ce que ça donne.
Les marins font donc route vers l'Irlande où ils vont devoir contourner le célèbre phare du Fastnet avant de revenir dans la baie de Saint-Brieuc où ils sont attendus en milieu de semaine. Une très longue première étape, 642 000, près de 1200 km.
Cédric Guillou, quelques résultats de football de Ligue 1.
Oui, c'était la deuxième journée. La suite cet après-midi, Lille s'est imposée à Reims 1-0. Le succès de Saint-Etienne 2-0 devant Lorient. Monaco va gagner à Metz 1-0 ce soir. Brest-Marseille en clôture.
Cédric Guillou, une nouveauté dans cette session d'information, le long format sport du journal, avec la finale de la Ligue des Championnes ce soir à Saint-Sébastien, entre les Allemandes de Wolfsburg et les Françaises de l'Olympique Lyonnais.
Oui, les équipes françaises qui dominent la Ligue des Champions féminines, puisque le Paris Saint-Germain, on le rappelle, était en demi-finale. Des Parisiennes qui avaient été éliminées par des joueuses lyonnaises qui peuvent écrire l'histoire de leur sport ce soir en remportant face aux Allemandes une cinquième couronne européenne consécutive. Elles égaleraient ainsi le grand Real Madrid des années 50 chez les hommes, hein, d'Alfredo Di Stefano, de Raymond Coppa. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Cédric.
Vous êtes à Saint-Sébastien pour France Inter, dans une drôle d'ambiance, hein, on le rappelle déjà Alexandre, puisque le match va se jouer à huis clos.
Oui, dans ce stade à Noëta, où on vit un dimanche au Pays Basque entre pluie et éclaircies en cette fin de journée, loin de l'effervescence des jours de match en Espagne. Jesús Tialespiga, c'est un bar à tapas en centre-ville.
Habituellement, un jour de match, il y a du monde en ville. Là, les bars sont fermés et les gens ont peur du Covid. Hier, j'ai vu deux supporters en ville avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Deux, pas plus. C'est dommage parce que les gens s'étaient préparés depuis un moment à aller au stade, voir le match. Malheureusement, ce n'est pas possible.
Car le foot féminin est suivi hein, à Saint-Sébastien. Son équipe, la Real Sociedad, vient d'ailleurs de gagner la Coupe Nationale dans un pays qui jusque-là, c'est vrai, considérait le foot comme la chasse gardée des hommes. Un exemple, le grand Real Madrid a une équipe féminine, oui, en première division, mais que depuis seulement l'année dernière.
Alors qu'à l'inverse, Alexandre, c'est la 11e fois qu'une équipe française se hisse en finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe ce soir. Comment on explique cette domination française sur le football féminin européen ces dernières années ?
Déjà, il y a une locomotive, Cédric, sur les 11 finales. Lyon en a disputé 9 et gagné les 4 dernières. Le résultat d'un investissement entamé il y a une quinzaine d'années par son président, Jean-Michel Aulas, a compris qu'avec un budget de 7 à 8 millions d'euros, soit 41 fois inférieur à celui de son équipe masculine, il pouvait avoir pas loin de la meilleure équipe du monde. C'est ce que nous explique l'entraîneur de l'OL féminin, Jean-Luc Vasseur.
Le résultat d'aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait auparavant, les investissements qui ont été faits auparavant, le côté visionnaire de notre président aussi. Mais si vous voulez continuer à perdurer, à gagner, il faut continuer toujours à investir.
Aujourd'hui, le championnat français reste l'un des plus rémunérateurs pour les joueuses. Lyon et le PSG, aussi finalistes de cette Ligue des Champions féminines en 2015 et 2017, continuent d'investir. Mais tous les grands clubs européens quasiment ont désormais leur équipe féminine. Un passage devenu obligé, selon Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse et consultante football de Radio France.
La motivation première aujourd'hui de ces clubs-là, c'est de dire on ne peut pas manquer le train, on ne peut pas être les seuls à ne pas avoir une équipe féminine, alors que c'est finalement une discipline qui maintenant a des super audiences et un public de plus en plus nombreux. Les grosses écuries dans le football féminin, c'est des écuries qui fonctionnent à perte. Donc il y a quand même encore un effort, entre guillemets, de la part des clubs masculins de dire demain, ça sera rentable.
Nadia Benmokhtar, merci beaucoup. Alexandre Vaux, en direct du stade Anoeta de Saint-Sébastien. Le coup d'envoi de cette finale, Frédéric, ce sera tout à l'heure à 20h.
Voilà, long format signé Alexandre Vaux. Dites-moi, Cédric Guillou, est-ce que vous avez donné Bordeaux-Angers ?
Non, la victoire de Bordeaux 2-0. Pardonnez-moi, Frédéric.
Fallait le dire. Merci, Cédric Guillou.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
Et un nouveau rendez-vous, encore un, dans votre session d'information du dimanche soir, désormais de 19h à 19h30, avec les temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. La rentrée des classes, on en a parlé. Le procès des attentats de janvier 2015, qui débute mercredi. Et à ce sujet, je vous recommande d'aller voir, lire et écouter le travail de la rédaction sur notre site franceinter.fr. Vous pouvez réécouter tous les zooms de la rédaction et quels zooms consacrés aux attentats de janvier, et également les portraits de tous les protagonistes du procès, victimes, familles, terroristes, accusés, magistrats et avocats. Tous ont une histoire que nous vous racontons à hauteur d'homme avec de nombreux témoignages pour mieux comprendre les enjeux de ce procès que nous couvrirons en intégralité, les procès des attentats de janvier mercredi. Moment fort de la semaine également, le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé jeudi prochain. Et à suivre aussi cette semaine, le déplacement d'Emmanuel Macron au Liban, il y sera demain. Christian Chesneau en direct de Beyrouth, bonsoir Christian.
Bonsoir.
Alors c'est la seconde fois que le président de la République se rend au Liban en moins d'un mois après l'effroyable explosion du 4 août dernier. Emmanuel Macron, Christian, vient pour obtenir un pacte politique, un nouveau gouvernement et des réformes.
Oui, au-delà des cérémonies du centenaire de la proclamation du Grand Liban le 1er septembre 1920, Emmanuel Macron vient replonger au cœur des intrigues du sérail libanais. Il compte bien remettre de la pression pour arracher la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale propre, efficace, capable, explique-t-on dans l'entourage du chef de l'État, avec l'idée d'ouvrir un nouvel horizon grâce à un nouveau pacte pour le Liban, pays aujourd'hui en faillite à tous les niveaux. Alors ce soir, Frédéric, on vient d'apprendre que Mustapha Adib, l'actuel ambassadeur du Liban en Allemagne, est proposé au poste de Premier ministre par le camp sunnite. Autre signe encourageant, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est dit ouvert et prêt à entrer dans les discussions proposées par le président français Emmanuel Macron, qui espère convaincre l'ensemble des responsables libanais qu'il réunira à la résidence des Pins de geler le temps politique pour laisser les mains libres à ce gouvernement de redressement national qui sera donc dirigé par Mustapha Adib.
Christian Chesneau en direct de Beyrouth avec Fabien Gosset, merci. Seconde partie de notre désormais nouveau rendez-vous du dimanche soir consacré à l'actualité de la semaine à venir. Du reportage avec Sandrine Houdin. Sandrine nous propose C'est mon actu et vous donne la parole à vous, auditeurs. Un coup de gueule, un témoignage à apporter, une initiative à nous présenter, une belle histoire à ne pas louper. C'est mon actu, c'est la vôtre. Légère ou grave, vous avez la parole. Alors la semaine prochaine, dès mardi 1er septembre, le masque est obligatoire en entreprise. Et ce soir, Sandrine Houdin a tendu son micro à Raymond. Raymond Dallaise, 67 ans, il habite une petite commune de l'Orne, à Rémalard, en Perche. Raymond était tellement désolé de voir son petit bistrot favori fermé pendant le confinement, stressé à l'idée que ça recommence, même s'il faut bien le dire, dans les bars, pour ce qui est du masque, souvent on relâche notre vigilance. Eh bien Raymond, notre retraité a réfléchi. Et il vient de créer des masques que l'on n'a pas besoin de retirer pour l'apéro. Si, on a testé, enfin Sandrine Houdin a testé pour vous. On se retrouve au comptoir du Café des Sports de Rémalard-en-Perche.
C'est très simple. C'est un masque à trous. Qu'est-ce que tu désires boire d'abord et ensuite je te le montre.
Je prends la route après, donc je sais pas. Vitalmente.
Merci.
Bon, maintenant je fais quoi là ?
Alors tu places ceci comme un masque. Tu as un petit trou au niveau de la bouche. Tu introduis la paille qui est plongée dans le verre et ça te permet de siroter.
Faut trouver le trou. Il est où le trou ?
Faut tâter avec la main gauche et ensuite si tu.
Ah, il faut tâter, d'accord.
Ça a goûté le trou.
Il est là, il est là.
Ça, c'est bien.
Ah oui, donc là j'ai pu boire mon verre sans enlever le masque.
Exactement.
Et si j'ai envie d'une cacahuète, je fais comment avec mon trou ?
Tu prends l'autre masque, qui est le masque à fermeture éclair.
Donc là j'ai plus de trou.
Tu as une ouverture au niveau de la bouche.
Alors je le mets, attends.
Voilà, c'est une fermeture éclair plastique qui se lave pour avaler les cacahuètes.
Donc en fait, ça m'évite de enlever le masque, remettre le masque, enlever le masque, remettre le masque pour boire un verre, c'est ça ?
Exactement. Ça évite les postillons du porteur de masque.
Et ça fait marrer, quoi.
Exactement.
Vous êtes client, vous trouvez ça comment ?
Je trouve ça génial. Là, le masque redonne le sourire alors que... Voilà.
Ce que vous voulez dire, c'est au moins là, avec ce type de masque, on a tendance à le mettre, quoi.
Voilà.
Parce que sinon, vous posez le masque.
Oui, franchement, on pose le masque.
Brigitte, vous êtes patronne. Oui. Votre client me disait, au moins, portez le masque là, ça fait marrer.
Ah oui, ça c'est vrai. Comme ça, ils ne posent pas leur masque sur le bar et ils le gardent sur eux. Puis, bah, pas de postillon, j'adore.
Vous préférez lequel, vous ?
Le trou. C'est plus marrant.
Je n'ai jamais vu personne se marrer autant en parlant de masque.
Bah c'est bien.
Pourquoi vous faites ça, Raymond ?
Beaucoup pour le plaisir. Le prochain, c'est un masque qui doit être certifié AFNOR.
Ah, parce que vous en faites un troisième ?
Oui, un troisième masque qui sera avec du velcro et ensuite qui sera normalement homologué et qui sera approuvé par des laboratoires.
Vous défendez quoi, en fait ?
J'aime les bistrots. J'ai l'impression de participer à faire quelque chose pour les petits bistrots.
Voilà des masques pour l'apéro et les cacahuètes. C'est mon actu, Sandrine Houdin, à dimanche prochain. La météo pour demain lundi, temps instable et un peu frais, Jean-Michel Olinsky.
Demain, le retour des hautes pressions sur la moitié ouest du pays va chasser les averses. La dépression centrée dans le golfe de Gênes va engendrer du vent sur le bassin méditerranéen jusqu'à 80 km/h pour le Mistral, la Tramontane et les rafales d'ouest sur les Caps Corse, avec du soleil pour l'ouest de la Provence, la vallée du Rhône et le sud de l'Occitanie. Par contre, des Ardennes à l'Auvergne et des frontières de l'Est à la face orientale de la Corse, les averses parfois mêlées d'orages vont mouliner une bonne partie de la journée, tandis que plus à l'ouest, c'est un temps variablement ensoleillé et sec qui va progressivement s'installer. Les températures, toujours sous la barre des normales, ne dépasseront pas 17 à 21 degrés au nord de la Loire, 21 à 24 plus bas, il fera jusqu'à 27 autour de la Méditerranée.